Mais cette synarchie, est-ce qu'elle existait ou est-ce qu'elle n'existait pas?
Parce que ça fait quand même complot, cette
voilà,
histoire.
Voilà, ça fait complot.
Là, on
mais
se dit, oh là là, on est en... ça sent savez, la théorie du complot.
Voilà,
on
vous
est
savez
dans
bien
complot.
Que ces dernières années, les historiens qui travaillent sur les sources se sont fait souvent accuser d'être des tenants du complot parce que dès qu'ils analysent la stratégie, les stratégies de groupes dirigeants, on leur tape sur les doigts. D'abord, j'aime bien avancer le préalable qui au moins met les gens d'accord, que personne ne dispute les conditions dans lesquelles Allende a été chassé du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous dites que Allende a été bombardé dans le palais de la Moneda, personne ne vous demande si des groupes ont concouru à ce résultat. C'est-à-dire qu'on a su très vite, et on a su officiellement, presque aussi vite, parce que les fonds américains ont été déclassifiés, que les États-Unis aidaient par les classes dirigeantes chiliennes, avait déboulonné une expérience qui était jugée désagréable. Ça s'appelle un complot. Eh bien, les classes dirigeantes qui passent leur temps à faire de la stratégie, et c'est normal parce qu'elles veulent rester là où elles sont et ça suppose beaucoup d'habileté, ces classes dirigeantes, dans les périodes difficiles, prennent des positions et ont des exigences qui les mettent en opposition à la masse de la population. Dans une période de crise, elles sont conduites pour préserver, voire augmenter les profits, elles sont conduites à exiger en matière de salaire des sacrifices considérables. Ces sacrifices ne sont pas consentis aisément, même quand les organisations ouvrières sont compréhensives. Quelquefois, elles sont tellement compréhensives que les salariés se détournent d'elles. Enfin bref, c'est bien gentil d'avoir des syndicats compréhensifs, mais après tout, s'ils n'ont plus la confiance des travailleurs, ils ne sont pas utiles. Et ce que préfère le patronat, c'est en général n'avoir pas de syndicats. C'est ce qu'avait fait le patronat allemand, dans un pays où pourtant la classe ouvrière était assez raisonnable. Eh bien, il faut le dire, cette expérience a enchanté l'ensemble des classes dirigeantes en France et ailleurs. Et la rigueur de crise a conduit ces milieux à être beaucoup plus impérieux pour exiger des changements dans les institutions. Le groupe initial qui voulait ces changements dans les institutions, bien qu'il ne soit pas le seul, il était le plus puissant, est un groupe de banquiers qui a reconstitué en 1922, et 1922 n'est pas une date intervenue par hasard, c'est le moment où d'autres décisions importantes sont parvenues à maturité en Italie. Donc en 1922, un groupe de banquiers, de grands industriels, a été établi, qui s'est appelé la Synarchie.
Alors c'était une société secrète.
Voilà, c'était une société secrète sur laquelle on...
Combien étaient-ils ? Qui étaient-ils ?
Alors, ils étaient 12 en 1922, avec une grosse représentation de trois grands groupes bancaires. Un groupe qui est pratiquement inconnu, mais qui joue un rôle très très important dans les milieux patronaux. Le groupe de Nervaux, dont je ne sais pas d'ailleurs aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, mais qui sont certainement devenus quelque chose dans les associations et groupements capitalistiques divers. Donc le groupe de Nervaux, qui à lui seul représentait familialement à peu près le tiers du groupe des 12. La banque Worms, avec son président Hippolyte Worms et son directeur général Barnaud. La banque Le Hideux, dont un rejeton serait un célèbre ministre de Pétain, et d'autres rejetons d'ailleurs ont eu un rôle plus récent, et d'autres groupes représentant alors le comité des houillères avec Henri de Peyrimoff, qui était la personnalité du charbonnage la plus importante, des personnalités qui étaient rattachées au comité des forges, c'est-à-dire l'équivalent sidérurgique du comité des houillères, et un douzième que je ne connais pas, mais qui est peut-être, en tout cas dans les années suivantes, c'est certain, un personnage de la synarchie extrêmement important, c'est-à-dire Paul Baudouin, directeur général de la Banque d'Indochine. C'est-à-dire des groupes très liés à l'outre-mer et qui sont passés dans les années 1920-1930 d'une sorte de grand enthousiasme atlantique pour un grand enthousiasme allemand.
Ils se réunissent, ces 12
se réunissent
mais
dans les locaux.
Après tout, pourquoi pas, hein.
Voilà.
On a le droit d'avoir des clubs
tout
de réflexion,
fait.
De se retrouver entre amis.
Tout
Est-ce que
fait.
Vous avez... Alors là, voilà les archives qui vous indiquent quelles étaient leurs conversations,
tout à fait,
leurs projets, leurs stratégies,
voilà,
leurs moyens, ce qui va sans doute nous entraîner à parler de la cagoule.
Voilà, les archives sont très précises, surtout à partir de la décennie suivante. C'est-à-dire qu'au départ,